بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes chers frères en islam, jeunes publics de ce soir, qu'Allah vous récompense pour votre présence, qu'Allah nous accepte, accepte ce majlis, et que chaque parole qui sera prononcée, Inch'Allah, sera une lumière pour nous, source de récompense, kafarat al-dhunub, pardon pour nos péchés, Inch'Allah, et qu'Allah Rabbul Izzah nous donne la possibilité de les mettre en pratique. Ce que j'ai lu cet après-midi, ce matin, j'ai préparé donc une lecture des textes que nous allons vous proposer ce soir, les hadiths, les versets du Coran. Je vous dis clairement, j'ai eu au moins deux ou trois fois l'occasion de le mettre en pratique, au moins deux fois. C'était des choses que parfois je ne le faisais pas moi-même. Et c'est donc des choses sans prétention, sans dire que certains soient à tel niveau, à tel niveau. Ce sont des choses qui sont nécessaires, mais qu'on ne considère pas nécessaires, qu'on ne considère pas comme priorité. Tout ce qui concerne notre intérieur, le tazkir, tout ce qui concerne la purification du cœur. Très souvent, on parle de purification du cœur, de notre relation avec Allah. Entièrement d'accord. Mais ce qu'on va voir ce soir, c'est comment avoir un cœur pur dans les relations avec notre frère en islam. Et ça, je vous assure, c'est quelque chose qui n'est pas facile. À maintes et maintes reprises, ça peut être dans une journée, ça peut être dans une conversation, en quelques fractions de secondes, en quelques échanges entre deux personnes, on aborde le sujet d'une personne avec qui vous n'avez pas d'affinité. D'accord ? Et il y a des fois où vous avez envie de faire un ta'liq, faire une remarque, sans que ce soit une riba. Attention, la médisance c'est gros quand même, c'est gros doigt comme il dit. La médisance, on connaît c'est quoi. Mais il y a des fois où tu as envie de passer une petite parole, d'accord ? Un petit commentaire, soft comme on dit. Soft pour toi, mais lourd dans le mizan, lourd dans la balance. Ou alors, de juste de dire à une personne, tiens, mon avis sur telle chose, tout en sachant qu'en prononçant cette parole, et dans certains cas, c'est pas en prononçant, c'est en écrivant, parce que très souvent, de nos jours, les fitnas, ça va plus vite sur WhatsApp. Il y a des grands chasseurs de WhatsApp à la recherche des moindres décalages, des moindres défauts, des moindres manquements pour essayer de diviser la Ummah. Et il y a des fois où, même dans des cas comme ça, on a envie de faire une remarque, d'écrire quelque chose à un frère en islam, et on se rend compte que cette parole, en fait, n'est pas constructive. Ça n'apporte strictement rien. Et donc, on s'en abstient. Et on dit Alhamdulillah. On dit Alhamdulillah qui nous est offert de lire des paroles, des récits des pieux prédécesseurs, comme Imam Shafi'i, rahimahullah, et d'autres grands savants, qui nous font comprendre que vraiment, à chaque fois qu'ils prononcent une parole, à chaque fois qu'ils vont avoir une relation avec une personne, le but c'est vraiment rechercher ridallah, le contentement d'Allah. Jamais rechercher être Ain al-Majalis, être le centre d'intérêt, qu'on parle de moi, être, ou alors non plus rechercher un quelconque intérêt, ou s'attirer le regard des gens, là où Allah, vraiment une sincérité, une ikhlas, et fait en sorte que tout ce qu'on va faire, prononce, que ce qu'on va prononcer comme parole, ou quelle que soit la nature des relations qu'on va engager avec une personne, ce sera l'illah pour Allah, avec sincérité. Et tout ça, ce sont des qualités qui reviennent vers le cœur. Quand on parle d'ikhlas, de sincérité, ce sont des choses qui sont enfouies au fond du cœur. Et ce sont des choses qu'on ne peut pas se forcer vraiment de faire, ou qu'on ne peut pas tromper les gens là-dessus. C'est-à-dire, on ne trompe pas notre Rabb. Ce qui est dans le cœur, c'est clair. On ne peut pas faire quelque chose dans le cœur par ostentation. C'est quelque chose qui soit lié, soit il n'y est pas. Donc, même dans nos relations avec notre prochain en islam, notre frère en islam, il y a des fois où on peut donner l'impression d'être quelqu'un de bien, de très correct. On fait salam, on sourit, on prend des nouvelles, mettre la main sur le dos, on se dit que oui, c'est quelqu'un de bien, ça c'est mon frère en islam, et alhamdoulilah, il est respectueux, il a adab, et ainsi de suite. Mais intérieurement, c'est totalement différent. Quand on a la moindre occasion, on ne louperait pas la personne, descendre la personne, porter atteinte à sa dignité, ou même, je saute les exemples, permettez-moi, même aller jusqu'à avoir des mauvaises pensées sur la personne. C'est-à-dire, quand tu vois la personne, tout de suite, tu penses à ses péchés, à ses défauts, à sa jeunesse. Quand il te dit quelque chose, tu l'écoutes avec un grand sourire, tu fais semblant de montrer de l'intérêt, mais intérieurement tu le dénigres. Tout ça, ça fait partie des péchés. On ne pense pas à ça parfois. On a l'impression que ça se limite à ce qu'on va dire, oui. Mais il y a des fois où intérieurement, il y a des choses qui sont sales. Et si on les laisse, le cœur se remplit de saleté. Et à partir du moment où intérieurement c'est sale, c'est pas sincère, c'est pas propre, ça finira par apparaître bil jawarih, ça finira par apparaître par les actions ou par les paroles. Donc, avant de commencer ce qu'on va dire, on va citer juste quelques points. On essaie de développer un peu sans prendre trop de temps. Limite 30 minutes ce soir, Inch'Allah, sachant que ce sera Tel Isha et de plus en plus tard. J'aimerais juste qu'on éteigne ce ventilateur. Barakallahu fikoum. Je suis un petit peu malade et ça n'arrange pas les choses. Même si c'est, il fait chaud, celui-là, je ne vais pas vous demander, ce serait volme, ça c'est pour vous. D'accord ? Donc, j'aimerais juste un petit flashback revenir sur ce qu'on avait dit la dernière fois, dans le but de vérifier est-ce qu'on a mis en pratique. Quel est le dernier point ? Akhtar, qui était là la dernière fois ? Akhtar était là ? Vous étiez là la dernière fois. Quel était le dernier point qu'on avait abordé, le dernier amal, la dernière action? Akhtar? Pas de souvenir? Il y a eu plein de choses entre temps. Il y a eu France-Suède, il y a eu Paris-Marseille, il y a eu Bordeaux-Marseille. Marseille a gagné contre Bordeaux, non? Alhamdulillah. Donc le dunya ne va pas aussi mal que ça. Qu'est-ce qu'on avait dit la dernière fois? Vous n'étiez pas là? Le dernier point qu'on avait abordé, on avait un peu insisté là-dessus, c'est l'importance de faire doua pour notre frère en islam sans qu'il ne le sache. Par exemple, on dit quelqu'un, tu connais tout le temps, fais doua pour. Ça ne sert à rien. Fais le doua pour la personne, mais fais-le sirran, silencieusement, en cachette, ce qui sera dalil ala l'ikhlas, ce qui sera une preuve de sincérité. Et on avait vu qu'il y avait au moins, on avait énuméré dans, à travers les trois textes qu'on avait expliqués, au moins trois récompenses, au moins trois vertus pour le fait de faire doua pour notre frère en islam. On avait dit que ça c'est tamam al-muhabba. C'est une preuve que vraiment on a muhabba pour la personne. Vraiment, si vous aimez quelqu'un, vous faites doua pour lui. Et on avait dit qu'en général, on fait doua pour qui? Normalement, on fait doua pour nos parents. On fait doua pour nos enfants. Ça c'est normal ça. Enfin, ça doit être normal. Maintenant, si on fait un sondage, on voit le nombre de jeunes, on demande le nombre de jeunes qui font doua pour leurs parents vivants ou pour leurs défunts parents, j'espère qu'on ne sera pas déçus. Normalement, on est enfant de l'âge de 4 ans, 5 ans jusqu'à tant que nos parents sont vivants. Que nos parents soient vivants et même dans le cas où nos parents sont décédés, on doit tous les jours faire doua pour eux. On avait cité ce que Ibn al-Izz al-Hanafi, rahimallah, il dit, c'est pas un hadith, c'est ra'y, c'est l'avis de ce savant. Pour moi, ça compte. Il dit que celui qui veut vraiment être parmi ceux qui font birrul walidain, qui sont bienfaisants envers leurs parents, au moins, il doit faire 5 fois par jour doua pour ses parents, c'est-à-dire après chaque salat. Ce qu'il veut dire, c'est que celui qui fait pas au moins 5 fois par jour doua pour ses parents, on ne le considère pas comme un enfant reconnaissant, comme quelqu'un de proche de son papa ou de sa maman. Donc on a dit qu'en général, on fait doua pour les gens qui nous sont très proches, les parents, les enfants. Le mu'min doit essayer de faire doua pour son frère en islam. Et on avait expliqué qu'il y avait au moins 3 fadail, 3 vertus. Parmi les hadiths qu'on a vu la dernière fois, le prophète Ali salat wa salam dit, dans un hadith authentique, authentif par Al-Bani rahimahullah, du'a ul akhi li akhihi bi dhahri al-ghaibi la yurad. Lorsqu'un musulman fait du'a pour son frère en islam avec sincérité sans que personne ne le sache, sachez ô musulman que ce du'a la yurad, ce du'a n'est pas rejeté par Allah azza wa jal. C'est-à-dire que ce du'a est qaboul, est accepté par Allah. Si on cherche une solution pour que le doua soit accepté, ben on fait doua pour notre frère en islam déjà, ce doua-là, cette invocation est acceptée. Deuxième vertu qu'on avait expliqué la dernière fois, autre hadith, apporté par Muslim Ahmad ibn Majah, doua ul mar'il muslimi, mustajabun yakhihi, bidahri l'ghaib, ça rejoint le même sens, lorsqu'un musulman fait doua pour son frère en islam, Allah accepte le doua. Et, inda ra'sihi malakun muwakkalun bihi, et lorsqu'on fait doua pour notre frère en islam, il y a un ange qui vient. Mais comment est-ce qu'il va savoir qu'on va faire un doua? Comment est-ce qu'il se déplace? Il vient, cherchez pas à comprendre. Ça, c'est l'organisation d'Allah Azza wa Jal. Ça, c'est le monde des malaïka. Cet ange qui est muwakkal, il est dédié pour cette mission. Cet ange vient près de cette personne. Kullama da'a li akhihi bi khairin. À chaque fois qu'il demande un doua pour son frère, قال الملك آمين ولك بمثل ذلك. Il dit آمين. Donc déjà آمين, ça veut dire le doua soit accepté. Un ange qui dit آمين, c'est pas n'importe qui, hein, malaïka qui dit آمين, déjà le doua est accepté. Et ça rejoint notre premier hadith. Et la deuxième chose qu'il dit, ولك بمثل ذلك, et qu'Allah t'accorde l'équivalent de ce que tu as demandé pour ton frère en islam. Ça, c'est magnifique, ça. Vous avez vu que Allah Rabbul Izzah est tellement généreux. Et la générosité d'Allah Azza wa Jal, elle peut concerner l'ensemble des croyants qui fait un effort. Et parmi ces efforts, c'est Ihsan, faire preuve de bonté envers notre frère en islam. Et de cette façon, une solution qui ne coûte pas d'argent, qui ne nécessite pas de moyens, faire doua pour notre frère en islam, le doua est accepté et le doua que tu demandes pour lui, l'ange dit qu'Allah t'accorde la même chose. Imaginez, on fait doua, oh Allah, protège tel frère en islam. Mets la muhabba, la baraka de son couple, de son union. Protège ses enfants. Ou accorde-lui des enfants s'il n'a pas d'enfants. Et ainsi de suite. Accorde-lui un travail, la sérénité, la tranquillité. Si'a fil rizq, baraka de sa subsistance. Ces doua-là qu'on doit faire pour nos parents, on doit faire pour. On essaie de faire pour notre frère en islam. Chaque point qu'on va demander, l'ange dit qu'Allah Rabbul Izzah t'accorde la même chose et c'est un doua qui soit accepté également. Donc si on veut avoir des bienfaits, demandez les bienfaits pour notre frère en islam. Ça nous donne déjà une idée du karam d'Allah Azza wa Jal, la générosité d'Allah Azza wa Jal et comment les relations entre frères en islam, c'est important aux yeux d'Allah Azza wa Jal. Et là on ne parle pas de frères de sang, hein, on parle de musulmans entre nous. Troisième hadith qu'on a vu la dernière fois, hadith dans lequel le prophète Ali salatu wa salam dit, et là c'est ajib, là on voit que la générosité d'Allah n'a pas de limite. Man istaghfara lil mu'minina wa lil mu'minat kataballahu lahu bi kulli mu'minin wa mu'minatin hasana. Celui qui demande istighfar, qui demande pardon pour tous les croyants et toutes les croyantes, Allah azza wa jalla lui accorde pour chaque croyant et chaque croyante une récompense. J'ai celui qui fait un doua général, oh Allah accorde ton maghfira, pour tous les musulmans et les musulmanes. On se dit que oui, mais tous les musulmans et les musulmanes, c'est combien? C'est 200, 300, 1000, 15 000, 1 million. Mais pour chaque personne, Allah t'accorde un hasana. Et lorsqu'on analyse la fin de « Iza zulzilat al-ardu zilzalaha, famen ya'mal mithqala dharratin khayran yara, wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara. » Celui qui a apporté un iota, un atome, la plus petite portion que l'être humain peut concevoir de bonne action, yarahu, le verra. Et celui qui apporte donc également, c'est-à-dire avec lui, un iota, le plus petit péché, le verra. Ce qui nous intéresse, c'est, et qui nous concernera, inshallah, c'est le moindre petit hasana, on le verra dans le mizan, dans la balance au jour de Qiyama. Un petit, petite bonne action. Et là, imaginez qu'après chaque salat, je demande ce doua. Le nombre de hasana, le nombre de bonnes actions greffées dans mon livret de compte. Ça nous fait comprendre que pour avoir de bonnes actions, mes chers frères en islam, il y a la place, comme on dit. Il y a la possibilité d'avoir beaucoup de récompenses, yaoumiyan, de façon journalière. Mais il y a des fois, on a l'impression que nos efforts doivent être orientés de telle façon, de telle façon. Oui, dans la salat, à travers le dhikrullah, pardon, à travers la lecture du Coran, sans le moindre doute, mais en étant proche de notre frère en islam, en étant généreux, en manifestant cette fraternité, cette solidarité, déjà par la façon la plus sincère, en faisant doua pour notre frère en islam, qui est la plus grande preuve d'amour, Allah nous accorde l'acceptation de ce doua, l'équivalent de ces doua pour nous, et un hasana pour chaque personne pour lequel on va demander doua, et si c'est général, pour chaque croyant, pour chaque croyant. Par rapport à ça, qui c'est qui a déjà mis en pratique depuis la semaine dernière? Masha'Allah, il doit pour moi aussi. N'oublie pas. Hein? Qui c'est qui a l'intention de le faire, Inch'Allah? Chaque personne présente, Inch'Allah. Si on ressort de ce majlis avec ce faïda, avec cette décision, cette résolution de faire dua pour notre frère en islam, régulièrement, Wallahi l'Azim, on en ressort vainqueur de ce majlis. Maintenant, je pousse un peu plus loin. Là, on retourne vers l'exemple des pieux prédécesseurs. Yahya ibn Sa'id al-Qattan, on avait dit cet exemple dernière fois, il dit que, on raconte, وَكَانَ الْإِمَامِ يَحْيَا يَدْعُوا لِأَلْفِ إِنْسَانٍ كُلَّ يَوْمٍ. Il faisait dua pour 1000. Comment on dit 1000 alf. 1000 personnes tous les jours. En prenant le nom. Ce qui veut dire que déjà le gars était connu. 1000 personnes. Qui connaît 1000 personnes ici? À part ceux qui ont des fichiers informatiques. Mais qui connaît 1000 individus charsiyen? Ce qui veut dire que, vous voyez, on n'était pas à l'époque où il y avait les réseaux sociaux. Moi, il y a peut-être 1000 camarades sur Facebook. Mais je ne les connais pas. Je les connais peut-être 40, 50. Okay? Eux, ils connaissaient au moins 1000 individus. Ils les rencontraient, ils leur faisaient salam. Ils avaient une relation. Et donc, ils les connaissaient par leur nom. Et ils étaient capables de prendre le nom de Alf, de 1000 personnes de leur doua. Il y a plusieurs leçons dedans. Un, les relations humaines à l'époque des pieux prédécesseurs, qui étaient des relations réelles, sincères, concrètes. Deuxièmement, le muhabba sincère qu'ils avaient pour chaque personne. Vous croyez que ces 1000 camarades-là étaient bien placés? Un était conseil général, régional, un était la préfecture, un était commissariat, un était gagné à porter telle chose, miné un PV, il fait sauter, l'autre n'a une facture de l'eau, il machin. Non, wallah, muhabba hubbu fillah. Même celui que tu connais pas, il n'est pas de ta race, pas de ton ethnie, il n'a aucune condition. Mu'min, muslim, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah de ton cœur, je fais un amal sur innamal mu'minuna. Ikhwa, ça c'est sincérité. Ça c'est ikhlas fil muhabba. C'est exactement ça qu'on essaie de rechercher. Et troisième leçon qu'on retient à travers l'action de Yahya ibn al-Qattan. Qui me dit la troisième leçon qu'on retient? Combien de temps il passait dans les doigts? Le temps qu'il passait dans les doigts pour citer le nom de 1000 personnes, Allahu Akbar. Ils donnaient du temps et ils avaient compris quand le prophète alayhi salatu wa sallam disait ad-du'a huwa al-ibada. Du'a, c'est ça même l'acte d'adoration. Parce que quand on fait du'a, c'est la manifestation de notre soumission envers Allah Azza wa Jal. Et qu'on reconnaît la position de notre Seigneur qui est notre khaliq, notre créateur qui donne tout. Innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah Rabbul Izza ordonne et cela se produit. Donc on demande au Seigneur des mondes. Et on reconnaît la position de makhlouq, de créature faible, muhtaj. On a besoin d'Allah. Et c'est ça qu'on retrouve, qu'on doit retrouver, ou on doit rechercher si on ne l'a pas trouvé à travers chaque ibad. Si on ne le retrouve pas, ikhwani fillah, sachez que l'objectif de l'adoration n'est pas atteint. Que ce soit zakat, saum, zikrullah, quelle que soit la bonne action qu'on accomplit. Quand tu jeûnes et que tu n'as pas réalisé que tu es en train de montrer al-iftiqaru ilallah, tu es en train de montrer, manifester comment tu as besoin d'Allah. Je me prive de nourriture et de boisson parce que j'ai besoin qu'Allah m'accepte. J'ai besoin qu'Allah m'aime et qu'Allah ait pitié de moi par le biais de ce mujahada, par le biais de ce sacrifice, pour qu'Allah me prenne en considération, pour qu'Allah ait raham sur moi, parce que je suis son serviteur et lui il est au-dessus de moi et que tout dépend de lui, de dunya akhira. C'est ça qu'on doit développer, cette relation entre makhlouk et khaliq. Si on n'arrive pas à développer ça, on doit revoir, qu'Allah me donne tawfiq en premier à nous tous, on doit revoir la relation, la spiritualité. On doit retrouver la spiritualité dans les bonnes actions. Quand je coupe mon bœuf, mon cabri, mon mouton ou autre chose, le jour de Udhiyya Qurbani, je dois me dire que ça, taqarrub ilallah, je me rapproche d'Allah, bil Udhiyya, par ce sacrifice. Je sacrifie un bien, je sacrifie une bête que j'aime, je fais ça pour Allah, avec espoir, raja, espoir que par ce mujahada, par ce sacrifice, Allah m'accepte. Allah ait pitié de moi. Allah me rapproche de lui. Allah pardonne mes péchés. Allah me rapproche de son Jannah. Allah m'éloigne du Jahannam. Et qu'Allah m'accepte jour après jour que je me rapproche de lui spirituellement. Et qu'Allah me protège du fait de m'éloigner de lui. Ça, c'est le ma'na shamil de Ihdina al-Sirat al-Mustaqim. Et que cela continue avec istiqama jusqu'à là, jusqu'à la mort. Que jamais je me dévie du droit chemin. Maintenant, si quand je coupe ce gros bœuf, mon but c'est juste de faire voir aux gens qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai acheté, combien je suis riche, combien j'ai acheté un gros animal. Ria, ostentation. Vous voyez comment il y a un monde entre l'ostentation et la sincérité. Vous voyez comment la sincérité c'est beau. Comment ikhlas, ça fait revivre la foi. Ça fait revivre le cœur. Ça donne un sens au ibadah. Ça donne un sens à ta vie. Ça donne un sens à ton dunya. Ça te fait comprendre c'est quoi le akhira. Ça te fait réaliser qui est ton Rab. Tout ça c'est de le ma'na l'ikhlas, de la sincérité. Alors que quand on fait quelque chose pour les gens, la hawla wa la quwwata illa billah, l'action elle est rejetée par Allah. Et le jour de qiyama, ce sera source de azab, nasallahu alayhi wa sallam, wa afia. Donc on voit comment ses pieux prédécesseurs donnaient du temps à ibadah, au dua, et ils savaient que ça, c'était l'action la plus importante. Dans une version, dans une hadith qui est daif, de chaîne de narration faible, mais dont le sens rejoint un peu, mukhul ibadah, c'est le cerveau des actes d'adoration. Et on doit retrouver ça, on doit retrouver cette essence, cette philosophie, cette hikma, ce talab, cette envie, cette conception du ibadah dans chacune de nos actes d'adoration. On continue avec l'histoire, avec l'exemple de Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah. Il écrivait la biographie de At-Tayyib Ismail Abi Hamdoun, un des grands qari à l'époque. Il dit que telle personne, il s'appelle Abu Hamdoun, il avait un livre comme un agenda, on pourrait dire, dans lequel il avait écrit le nom de 300 de ses amis. 300. Wa kana yad'u lahum kull layla. Tous les soirs, lorsqu'il se réveillait, il prenait son livre, son carnet, son agenda, et il faisait doua pour ces 300 personnes. Si vous, le soir, vous vous réveillez, vous regardez votre smartphone, vous faites doua pour tous vos amis de Facebook, ceux qui sont musulmans. Khair wallah. Un grand pas, quelque chose de bien. Pour rester plus sérieux, on doit, inshallah, faire l'intention de faire le maximum de doua pour ces personnes. On a vu l'exemple de... C'était Omar ibn Omar. Il connaissait, je ne sais pas, plus de 1000 personnes et il s'efforçait le plus souvent, le plus fréquemment possible, de les rendre visite un par un Amir al-Mu'minin. Rendre visite à monsieur tout le monde, excusez-moi l'expression, parce que c'est un mu'min. Lui donner son haqq, le prendre en considération. Ce sont là, mes chers frères et sœurs, des grandes leçons d'humilité. Très souvent, on parle de tawadu, d'humilité, mais on a l'impression que humilité, c'est juste sa tête, comme ça. Ça, c'est pas l'humilité, ça. Humilité, c'est dans le cœur. C'est vraiment avoir de l'estime pour son prochain. Et on va voir dans les relations avec notre foi en islam, c'est quoi également développer l'humilité. On va terminer avec une citation qui est magnifique de Mohammed ibn Yusuf al-Asfahani. C'est des noms qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Ce sont les générations après les tabi'in, les atba'i tabi'in, des gens, malheureusement, leur biographie est écrite en arabe mais n'existe pas en français, mais on devrait apprendre un peu la vie des pieux prédécesseurs. Ce sont là des leçons pour nous. D'autant plus que c'est des gens qui ont vécu, on va dire, 2 siècles après les sahaba. Il y a des fois, on idéalise, dit le sahaba, de toute façon, c'est l'époque des sahaba, mais ça, c'est des gens qui ont vécu, on va dire, parfois, l'empire Omeyyade, c'est des moments difficiles, ou le début de l'empire Abbaside, des moments difficiles de fitna aussi, mais c'était des gens qui étaient restés, mashallah, dans l'istiqama, dans le droit chemin. Quel conseil, Muhammad ibn Yusuf, rahimahullah, il dit, en termes de relation de muhabba, il dit, où sont ces frères en islam qui sont pieux et sincères, et qui sont sincères avec toi, même après ta mort. Parce que quand quelqu'un a développé une relation de fraternité pour Allah, mukhlisan lillah, avec sincérité, cette relation, et que la personne, à la base, elle a de la piété, et elle a du ilm, la connaissance religieuse. Elle va connaître que après la mort, qu'est-ce que je peux faire pour Ishaq, Imran, Muhammad, Abdullah qui est décédé. Elle dit que quand tu as un ami comme ça, ne le lâche pas. Lui, c'est vraiment quelqu'un à suivre. Lui, c'est vraiment quelqu'un à garder dans tes contacts, à garder Muhabba. Je me dis que cette personne-là, alors que أهلك يقتسمون ميراثك ويتنعمون بما خلفت alors que tes proches, ta famille, ils sont en train de partager tes biens et en train de jouir de ce que tu as laissé, n'est-ce pas là la suite logique des choses? Après les pleurs, après les larmes, après, parenthèse, hein, tradition indienne, le dalgos, après, je parle, comme ça, bref, après tout ça, il invite la famille et tout, bref, après la période de deuil, la famille, soit il va chez le notaire, soit le partage déjà été fait, chacun prend son haq. Et ça, c'est shara'a. Ça, c'est sharia, ça. Ça, c'est l'islam qui nous demande al-mirath, l'héritage. C'est quelque chose de normal, il n'y a pas de mal. Je dis, mais que, alors que ta famille, ils sont en train de profiter maintenant des biens que tu as laissés, ton frère mukhlis, ton frère en islam, wa huwa munfaridun bihuznik, il a toujours de la tristesse de son cœur pour toi. Muhtam bima qaddamta. Il se fait du souci pour ce que tu as emmené avec toi de la tombe. Ça, c'est le frère sincère, pieux et qui a la connaissance. Il se fait du souci. Mohammed est décédé, Abdullah est décédé. Je connais quelles étaient ses bonnes actions, mais je connais également quels étaient ses défauts. Et son souci, c'est quoi? Les péchés que tu accomplissais dans de ton vivant, est-ce qu'Allah va lui pardonner? Qu'est-ce qu'il aura à répondre dans la tombe? Donc il fait doua pour toi. Yad'u laka fi dhulmati al-layl wa anta tahta atbaq al-thara. Il dit que ce frère là mukhlis, il continuera à faire doua pour toi lorsqu'il se réveille de qiyam al-layl tahajjud, alors que toi tu es sous terre. Il dit que ce genre de personne, ce genre d'ami, nadir, c'est quelque chose de très rare. Mais ce sont là les meilleurs amis qui se fait du souci pour ton iman et qu'après ton décès, il va faire doua qu'Allah te pardonne les péchés et qu'Allah illumine ta tombe. Il dit que ce doua qu'il va faire sera un doua qui sera accepté, comme on l'a vu tout à l'heure. Elle dit que tu es sous terre. Royad khulu min du'a'ihi ala qabrika min al-anwar mithla al-jibal. Il dit que par les doua de cette personne, tu es sous terre, mais il y a quantité de nour, de lumière qui rentre comme des montagnes de nour qui viennent avec toi dans ta tombe par les doigts de ce frère sincère mukhlis. Si on n'a pas de tels amis dans notre vie, soyons, devenons de tels amis pour nos prochains. En commençant dès maintenant, si maintenant on ne commence pas à faire doigts pour notre frère en islam, c'est pas pressamment qu'on va le faire. Donc si on prend l'habitude régulièrement, commencez par les membres de la famille. Déjà, excusez-moi, mais commencez par les parents, si ce n'est pas le cas, faites doigt pour de madame. Si quelqu'un est marié, combien de fois on fait doigt par jour pour de madame? Non, dis pas, c'est un test, hein. Ne réponds pas, parce que si on dit zéro fois, écoute madame, écoute, on aura de gros problèmes. D'accord? On doit faire doigt pour nos parents, faire doigt pour notre épouse, faire doigt pour nos enfants, faire doigt pour belle-mère. T'en mets réfléchi, hein. Allez, pour nos beaux-parents. D'accord? Fais doua pour les tontons, tantes, nièces, neveux, grands-parents, s'ils sont vivants, s'ils sont décédés. Il a réalisé Zalik. Commençons par ça. Samihim, citez-le un nom. Citez-le un nom. Un par un. Dalil ala l'ikhlas, preuve de votre sincérité. Et Allah, Rabbul Izzah, regarde l'effort qu'on fait et Allah accepte l'effort. Peu à peu, on commence à faire doua pour notre voisin, pour nos collègues de bureau qui ont iman de leur cœur et pour les gens qu'on veut. Et faites pour moi aussi. Et je verrai pour vous tous, Inch'Allah, pour ceux dont je connais les noms. Ça que vous ne connaissez pas les noms, écrivez sur un petit papier, envoyez sur Facebook ou sur WhatsApp. Inch'Allah. Ah là. Donc il dit ça, soyons cette personne pour notre frère en islam qui doit un pour lui, qui continuera à faire. Combien de personnes, combien de proches décédés? Si je reste dans le quartier de Montreuil, une personne exceptionnelle, qui pour moi, à mes yeux, c'était un min ahsanin nas. Je le dis maintenant qu'il n'est plus là. Pour moi, c'était parmi les meilleures des personnes que j'ai connues de mon existence. Il habitait la ruelle Beauvilain. Hafez Ousmane. Allah. Une crème d'homme. Personne avec qui j'ai travaillé 9 ans. Il m'a jamais dit ouf. Ça me rappelle le comportement du prophète avec Anas ibn Malik. Il m'a jamais dit pourquoi tu as fait ça ou pourquoi tu n'as pas fait ça. Jamais fait une remarque. Jamais été désagréable. Un comportement, wallahi, qui sort des kitabs, qui sort des livres, digne des pieux prédécesseurs. Est-ce qu'on fait doigt pour lui? Si on le connaissait, pour ceux qui le connaissaient, vous le fréquentiez, il venait ici. Il était moussali. On doit faire doigt pour ce genre de personnes. On doit faire doigt pour des gens qu'on aimait. Et on doit faire doigt régulièrement et dans la mesure du possible pendant le qiyamul layl, pendant la prière de la nuit. Ça, c'est une preuve d'ikhlas. On est en train de chercher la sincérité dans les relations. Je ne parle pas, invite la case manger. Enfin, pas que je ne parle pas, mais ça, on l'a déjà vu ça l'autre fois. Avant. Inviter à manger, donner des hadaïa, des cadeaux, rendre visite. Ça, c'est zahir, ce qui est apparent. Il faut le faire aussi. Maintenant, travaillons le batin, ce qui est beaucoup plus dur. Et quand on creuse, on se rend compte que dans le fond, on n'a aucun muhabba sincère pour la personne. On est correct seulement avec lui, parce qu'il est là. On ne peut pas l'ignorer. Il habite là, il est musulman, il est comme moi et tout. Donc, je ne peux pas agir de façon... je ne peux pas avoir un sou ou le khuluq, un mauvais comportement avec lui. Ça se limitera à ça. Mais intérieurement, c'est là-dedans, c'est dans le cœur, on voit est-ce qu'il y a ikhlas et le muhabba. Donc là, on essaie d'aller un peu en avant. Parmi les preuves de la muhabba sincère, c'est faire en sorte que le muhabba ne s'arrête jamais. Et quand je dis que le muhabba ne s'arrête jamais, c'est jusqu'à la mort, ce qui veut dire, soit ma mort, soit la mort de la personne, ce qui veut dire que les micro-événements, parce que moi j'appelle ça des micro-événements, les micro-événements de la vie ne doivent en aucun cas rompre les relations de muhabba ou provoquer une rupture. C'est des enfants, ça, qui disent, mais qu'est-ce que c'est et tout. Maintenant, il y a eu un petit souci, il y a un accrochage, il y a eu une parole de déplacé. Yahri, tu as raison, tu as tort, va le voir en premier et demande pardon. Ça, c'est magnifique. Pour ça, me dit, man tawadu'a lillahi rafa'ahu Allah. Celui qui se rabaisse pour Allah. Je sais que je vais me rabaisser, c'est lui qui a tort, mais je fais ça pour Allah. Parce que, muhabba là, il faut garder. Je ne peux pas me permettre de casser relation avec quelqu'un. Il a tort, il a mal parlé, il a mal agi, et ainsi de suite, quelles que soient les choses qu'il a pu faire. Je vais lui dire, écoute, s'il y a eu quoi que ce soit, je m'excuse, en premier. Fais maf, pardonne-moi s'il y a eu un manquement de mon comportement, de ma manière d'agir envers toi. Allah est tellement satisfait de toi. Celui qui se rabaisse, qui s'humilie pour Allah, rafa'ahu Allah, Allah va élever cette personne. Donc, quand il y a quelque chose, il ne faut pas qu'on ait comme ces gens qui, lui, il a fait mes affaires, c'est fini. Hein, son cas est réglé, il a gris au papier, maintenant c'est fini, moi je... Non, c'est pas bien, c'est pas pour nous ça. Ça, c'est pas pour ceux qui ont un cœur rempli d'ikhlas. Maintenant, ça dépend dans quelle catégorie de personnes je vais me ranger. Des gens sincères ou les gens bas de gamme, les gens normaux. Parce que peu de gens vont développer le ikhlas, la sincérité. Je veux développer l'ikhlas dans ma relation avec Allah, alhamdulillah, on le doit le faire, on doit le faire. Mais dans ma relation avec les gens, là aussi je développe l'ikhlas. Et donc, quels que soient les événements de la vie, en aucun cas je dois rompre les relations avec mon frère en islam. Quelles que soient les raisons. On avait vu la dernière fois, même le masnan entre les savants qui disent, certains disent que s'il a fait un péché, il y en a qui disent qu'on ne l'adresse plus la parole, et il y avait des dalils, des preuves pour ça, mais la majorité des savants disent qu'au contraire, c'est dans les péchés, dans les moments où il est en train de s'éloigner d'Allah, qu'il a plus besoin d'un ami sincère qui saurait lui donner de bons conseils. Et c'est là qu'on doit marquer sa présence, montrer qu'on est là, on doit essayer de le ramener avec sincérité, avec muhabba, en étant généreux, en étant correct. D'accord? On continue. Autre point, je ne sais pas ça de combien tient à mon avis depuis l'autre fois, mais on va dire que pour ce soir, c'est le premier, preuve de sincérité dans les relations, donc que le muhabba perdure et que jamais ça s'arrête à cause de litiges ou de paroles déplacées. Deuxième point, Allah takuna ma'a hasadin, qu'il n'y ait jamais de jalousie contre la personne. Jamais développer al-hasad envers notre frère en islam. Tout simplement, parce qu'on a déjà vu ce hadith et on se doit de le mettre en pratique, Allah donne tawfiq de le faire, c'est que le mu'min an tuhibba li akhi kama tuhibba li nafsik. An tuhibba li akhi kama tuhibbu li nafsik. Aime que tu aimes pour ton frère en islam ce que tu aimes pour toi-même. Ce que tu désires pour toi-même, tu dois désirer pour ton frère en islam. Et donc, ce que tu crains pour toi, ce que tu n'aimerais pas qu'il t'arrive, il ne faut pas que tu le souhaites pour ton frère en islam. À partir du moment où on a cette, on parle d'un état d'esprit, on a cet état d'esprit qui est l'état d'esprit du mu'min, assurément n'aura pas de hasad. Il a eu un bon travail, il a postulé, il a eu tel poste, alhamdoulilah pour lui. J'aurais aimé avoir quelque chose comme ça. Il a eu, mon cœur est rempli de joie, si mon frère en islam a eu un bienfait. Toujours mettre, garder à l'esprit que le bienfait qu'il a eu là, c'est pas qu'il a mérité ça, c'est qu'Allah lui a accordé. Tu vas te rebeller contre la décision d'Allah d'accorder un bienfait à quelqu'un, là wallah. Il a fait demande en mariage à telle personne, moi aussi j'avais peut-être l'intention et tout, il avait fait, il était accepté, alhamdoulillah, ça c'est son taqdir, ça c'est son destin, ce qu'Allah lui a accordé, et je dois être content pour mon frère en islam. Donc jamais qu'il y ait un, même toute petite présence de hasad, de jalousie dans notre cœur pour notre frère en islam. Inch'Allah, bien clair, on ne va pas développer plus que ça, ça c'est un point important. Troisième point, que notre relation avec notre frère en islam, cette relation qui est basée sur l'humilité et le respect, ne change jamais, quelle que soit la situation. Que ma situation évolue ou que la sienne évolue. On va dire plutôt dans le premier cas, par exemple, je ne sais pas, quel que soit mon travail, j'ai une promotion, je deviens quelqu'un de plus important, je suis embauché par une grande boîte où j'ai réussi un diplôme ou un master, un doctorat, je deviens quelqu'un de plus important. En aucun cas, je dois me sentir maintenant supérieur à mon frère en islam. Abadan. Jamais se sentir supérieur. L'humilité qu'on a, le tawadu, le respect qu'on a, ne doit jamais changer, quels que soient les changements positifs qu'il y a dans mon niveau social ou autre chose. Pas demain j'hérite et je deviens, du jour au lendemain j'ai beaucoup d'argent, du coup maintenant j'osse le menton et j'adresse plus la parole à telle personne parce que maintenant on n'est plus dans le même niveau social. Là, wallah, ça c'est djoual. Ça, ce sont les ignorants qui agissent comme ça. Le mu'min mukhlis, il ne doit pas changer son comportement, quelle que soit l'évolution des situations. Même si c'est une situation, une évolution négative, d'accord ? Il avait tel niveau social, il a perdu son travail. Qu'Allah protège. Perdu son travail, maintenant il n'a plus de logement, il est endetté, il a des difficultés. Ce n'est pas que Jika maintenant devenu quelqu'un de, voilà, d'une autre classe sociale, hein, d'accord ? J'ai pu le fréquenter. Ah, Abadan. Ça, c'est des comportements d'ignorants. Quelle que soit la situation de la personne, le muhabba est basé sur quoi? Sur la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Et sur strictement rien d'autre. Sinon, là, vous pensez que les gens de Madina, ils auraient accepté les gens de Makka? Ils sont venus mains vides, poches vides, rien. Rien à manger, pas un dinar ou un dirham en poche. Pauvres. Et les Ahl Madina, certains entre eux, machin, ils étaient riches. Ils les ont acceptés parce qu'ils avaient la ilaha illallah de leur cœur. Pas qu'ils disent, écoute, moi je suis propriétaire de 3 hectares de Adjoua ou de Ambar, je suis quelqu'un de riche, avec tel troupeau, si on me met frère avec un riche commerçant de Makka, oui, mais quelqu'un qui n'a rien, non. Abadan, jamais de la vie. Ils ont accepté sur la base de la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, sans regarder ce qu'il avait dans les mains ou dans les poches. C'est comme ça que notre comportement doit. Et ce qui est magnifique, c'est que tout ce qu'on explique comme thèse, enfin, comme règle, ce ne sont pas des thèses, c'est pas chimérique. Ce sont des choses qui ont été mises en pratique par les sahaba, ridwanullah, ya'alim ajma'in. Ce qui a fait de la société de Al-Madina la meilleure des sociétés, mashallah, 40 minutes, la meilleure des sociétés, la meilleure des civilisations. Autre point, on va s'arrêter à 40 minutes, donc encore 2 minutes. Ne jamais écouter ce que les gens vont dire de mal sur ton frère en islam. Même pas juste pour connaître ce qu'ils disent. Là, wallah, ferme la porte. Sadd dhara'i'. Quelqu'un vient te dire, hein, ou les camarades avec Akhtarou. Dis oui. Akhtar, c'est un bon maman, c'est juste qu'il est là, il prend son nom. Dis, m'entendu, quelque chose, tu lis. Mais Amana, dis pas personne. Dis, écoute, yahri, ce que tu vas me dire, c'est quelque chose de bien ou de mal. Elle dit, non, c'est un truc un peu dérangeant. Je ne veux même pas entendre. Ne me fatigue pas avec ça. Je ne veux même pas entendre. Parce que tu vas rentrer dans riba, médisance, tu vas rentrer dans souvan, dans les mauvaises pensées, et tu vas peut-être, à cause de la rumeur que tu as entendue, tu vas peut-être changer mon opinion sur la personne. Je dis toujours, rumeur, c'est pire que tumeur. Bon, c'est un peu bête, hein. La protéine des tumeurs aussi. Mais les rumeurs, c'est quelque chose de terrible. Ça dévaste. Comme une tumeur, ça peut dévaster un cœur. Un corps, une rumeur peut dévaster un cœur. Je reprends. Si comme une tumeur peut dévaster un corps, une rumeur peut dévaster un cœur. On a droit de tuer dessus, d'accord? Non, wallahi, ne jamais écouter. Je parle même pas. Le péché gros doigt, c'est faire ribat. L'a dit la fille. L'a dit la fille. Dans un dia, comment il dit? Panchat. Panchat, hein? Dans chaque civilisation, on a. Et le mot panchat est vilain. Hein? L'a dit la fille est vilain. Qila waqal n'est pas beau non plus. C'est quelque chose de détestable. Hein? Ah non, ça, c'est pire encore. Ça. Donc, je ne parle même pas du ribat. Le ribat, c'est un péché gros doigt. Tout le monde connaît que ce n'est pas bon. Là, je parle de ce que les gens disent. Il paraît que. Il ne fait pas ribat. Déjà, qu'elle commence sa phrase par dire c'est, il ne fait pas ribat. Mais, ou alors, me dit ça fait ce quelqu'un ne dit pas personne. C'est qu'il va te tirer un truc pas net. Tu fermes la porte. Dis, ça, je ne veux pas entendre. Soit c'est quelque chose de bien. Soit je ne veux pas entendre. Même si c'est vrai, je ne veux pas entendre. Et de cette façon, la personne va savoir que lui, c'est quelqu'un qui n'aime pas écouter ce genre de paroles. Les qila waqal, les choses qu'on raconte. Donc, et en commentaire, ça m'a dit, le simple fait de porter une oreille attentive à ce que la personne va dire, tu es en train de porter atteinte à la dignité de ton frère en islam. Tu es en train de développer du nifar, de l'hypocrisie. Parce que devant lui, tu vas avoir un bon comportement, tu vas faire comme si tu l'aimes, mais par derrière, tu es prêt à écouter ce qui se dit sur la personne. Abadan, fermez la porte. Ne rentre même pas dans le jeu de ce genre de personne. Comme on a dit la dernière fois, parmi les qualités du bon frère en islam, gardez les secrets de notre prochain. Quand vous entendez quelqu'un dire que telle personne m'a dit quelque chose, c'est amanat. Mais amanat, amanat, amanat. Mais dis pas personne, personne, personne. Tu dis que ben, si c'est amanat, garde pour toi. Si c'est amanat, ne trahis pas ton frère. Ne fais pas en sorte que je le trahis non plus. N'écoutez même pas. Parce que c'est comme ça qu'on trahit les amanats et ça c'est un péché. On terminera avec un dernier point qui rejoint un peu ce qu'on a dit la dernière fois. Et Al-Ghazali, rahimahullah, dit, on ne cite pas souvent Al-Ghazali pour des raisons, certaines raisons, mais il y a des fois on le dit, I'lam, an, laysa min al-wafa. Muwafaqatul akhi fi ma yukhalifu al-haq fi amrin yata'allaq bid-din. Dit que la sincérité dans les relations, ça ne va pas jusqu'à suivre notre frère en islam dans tout ce qu'il fait, même quand il va à l'encontre de la religion. On voit notre frère en islam prendre une mauvaise décision dans sa vie qui porte atteinte à sa spiritualité. Faut pas se dire que non, ben ça pas gâte avec lui. Autant continuer à le fréquenter. Non. Quand on voit qu'il est en train de faire un faux pas, on se doit d'être là pour lui donner les nasiha, le bon conseil. Parce que si tu laisses ton frère en islam s'enfoncer dans un péché ou ouvrir une première porte de péché, tu n'aurais pas été un frère sincère en islam. Par exemple, je fréquente telle personne, alhamdoulilah, je vois qu'à un moment donné, il me dit que ben voilà, j'ai pris la décision, je suis en train de réfléchir à un projet avec madame et tout, de devenir propriétaire du logement où j'habite. Il me dit, c'est bien, d'accord? Il dit, parce que paye 800, 900 euros tous les mois, pendant 5 ans, 6 ans, c'est tout le monde en souffre. Il me dit, mais, après tu te dis, mais comment, financièrement, tu vas t'en sortir? Je dis, non, mais il y a un camarade qui travaille à la banque, il peut me faire... Tu peux me faire un bon prêt avec un taux de 2%, 3%. Yani, ton frère en islam est en train de déclarer la guerre à Allah et son prophète. Verset du Coran. Il est en train de mettre le pied dans riba, qui est pire que faire la fornication, le zina avec sa propre mère. Yani, la métaphore elle est puissante pour que l'homme soit, le croyant soit dégoûté du riba. Quand on entend que le plus bas degré de l'intérêt, c'est comme quelqu'un qui a des rapports avec sa mère, on se dit que ça c'est répugnant, envie de cracher ce que je viens de dire. Mais pareil, le riba c'est pire. C'est plus grave que ça. Tu sais que ton frère est en train de faire en train d'ouvrir une porte d'un péché qu'il n'avait jamais accompli. Tu vas le laisser? Tu vas le laisser, tu vas continuer à le fréquenter, aller manger chez lui sans rien dire? Abadan. Jour de Qiyama, il sera hujjat alayk. Il témoignera contre toi. Tu es pécheur parce que tu n'as pas fait nahi anil munkar. Tu n'as pas interdit le mal alors que c'est un devoir du musulman. Le de Qiyam, lorsqu'il aura à répondre, il pourra dire que mon frère en islam, il avait la connaissance que c'était un péché. Il ne m'a pas donné le nasiha. On aura à répondre. Donc, aimer son frère en islam, ça peut être pour un frère en islam, ça peut être un frère de sang, quelqu'un de la famille. Quand quelqu'un commence à faire un péché ou en train de faire quelque chose de mal, on se doit de l'en empêcher. Je connais que mon collègue, mon ami, il est en train de... Son cœur est en train de pencher pour une collègue du bureau. Mon frère en islam, ce sont des choses qui arrivent. D'accord ? C'est des choses de la vie de tous les jours. Je sais qu'il est marié, je connais sa famille, sa femme, ses enfants. Je vois qu'il est en train de... Son cœur pince un petit peu pour telle femme et tout. Je ne dois pas me dire que c'est ses affaires, ça. Je n'ai pas à me mêler de ça. Il n'y a pas une question de mêler ou pas mêler. Tu dois l'empêcher de mettre un pied de l'usine. Tu dois l'empêcher de mettre en péril sa vie de couple, sa vie de père de famille. Sa femme va peut-être le quitter quand elle va savoir. Ses enfants vont vivre sans père. Ils auront une enfance perturbée. Il n'y a rien de pire qu'une enfance où le papa et la maman n'est pas ensemble. C'est des trucs compliqués. C'est le plus grand service, le plus grand nasiha que tu peux donner à ton frère en islam que de l'expliquer en commençant par des doigts. Oh Allah, donne-moi la possibilité de lui dire le haq sans qu'il soit vexé et que cette parole touche son cœur. Avec sincérité, la parole touchera son cœur. Et on a vu la dernière fois que quand on donne un nasiha, toujours le faire en secret. Ne jamais dire à quelqu'un, je voulais te dire devant l'assemblée, la fois je t'ai vu regarder telle femme de la rue, faire la bise. Il ne parle pas de lui, hein. Ça te va, t'es un bon marmaï, ça. Mais marmaï, c'est un PM, il a beaucoup de respect. Un camarade Assad Patel et tout, passe lui mes salams. Je n'ai pas à dire que, l'autre fois, tu étais à la boulangerie, tu as fait la bise et tout, c'est pas quelque chose à faire. Là, tu es en train de faire ihana. On est en train d'humilier la personne. On a vu la dernière fois que le nasiha, le conseil, c'est en secret. Ce qui sera une preuve de sincérité. Si on parle des défauts de quelqu'un en public, on l'aura humilié. Et c'est là-dedans, il n'y a strictement aucune ikhlas, aucune sincérité. On va s'arrêter à là, Inch'Allah. La prochaine fois, on va continuer avec les qualités spirituelles, les qualités du cœur pour établir des relations sincères de fraternité en islam en parlant des mauvaises pensées. Ça, c'est la gangrène. Ça, c'est la pire des choses. C'est de là que tout commence. Quand on commence à développer, on fait la mauvaise pensée, c'est une graine que Shaitan plante. Et il regarde comment il pousse. S'il pousse, il va en faire une forêt. Si ça ne pousse pas, il va passer à quelqu'un d'autre. Quand Shaitan voit que la personne... Ça, c'est une faiblesse. C'est une faiblesse spirituelle, mais c'est également une faiblesse psychologique. Les gens qui sont un peu plus rationnels, ils vont pas développer des mauvaises pensées. Ça, c'est quelque chose qui est un peu en relation avec la paranoïa aussi. Quelqu'un qui est paranoïa, il pense toujours que lui, il est comme ci, il est comme ça. Donc, ça, c'est des choses qu'il faut arrêter. Ça vient de Shaitan. Donc, quand on commence à développer des mauvaises pensées, assurément, on aura une mauvaise opinion de la personne. Assurément, cela va se voir, va se traduire à travers le akhlaq, à travers le comportement. Permettez-moi de terminer avec... Il y a une anecdote, c'était... Je l'ai lu, je l'ai relu une troisième fois et ça me fait toujours le même effet. D'avoir de bonnes pensées, parce que là on parle des mauvaises pensées et par opposition, avoir toujours bonnes pensées. Tu as entendu quelqu'un dire quelque chose et une bonne... On a vu quelque chose comme la dernière fois, non? Une citation que même si oui, que même si je vois... Je ne sais pas si c'était ici ou sur Facebook, on m'en occupe plus. Tellement nos affaires. Si je vois, oui, du vin... Facebook. Si je vois du vin qui tombe de la barbe de mon frère en islam, vous venez la barbe déjà, s'il y a de l'alcool, du vin qui tombe, qui s'écoule de la barbe de mon frère en islam, je vais penser qu'il y a une cruche qui s'est cassée, qui s'est renversée sur lui. Mais jamais je vais penser que c'est lui qui a bu. Ça, c'est akhlaq des pieux prédécesseurs. Toujours avoir bonne pensée. Ne jamais avoir mauvaise pensée sur notre frère en islam. Et donc, Ar-Rabi' ibn Sulayman dit, j'ai été voir Imam al-Shafi'i. Je rendais visite à Imam al-Shafi'i, rahimahullah, alors qu'il était très malade. Et j'ai dit, qawwallahu da'fak, qu'Allah renforce ta faiblesse. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Qu'Allah renforce ta faiblesse. Qu'est-ce que vous comprenez? Ta maladie, ce qui t'affaiblit, qu'Allah renforce, au moins tu deviens bien. D'accord? Que cette faiblesse se transforme en force, khalas, tu deviens en bonne santé, tu retrouves la santé. Al-Shafi'i, rahimallah, dit, لو قوى ضعفي قتلني. Il dit que si ma faiblesse se renforce, elle va me tuer. Il dit que c'était dans l'autre sens. Vous comprenez le jeu de mots? La personne dit, oh imam, wallahi ma aradtu illa al-khair. J'avais une bonne intention quand j'ai dit ça. C'est pas ce que j'ai voulu dire. Shafi'i dit, j'ai compris, ne t'inquiète pas. Elle dit, hatta, ne t'inquiète pas. Hatta law shatamtani. Même si tu m'insultes, je serai capable d'avoir une bonne pensée que tu voulais dire telle chose. Ta langue a dérapé. Il voulait pas dire tel gros mot, il voulait dire, dis, je suis comme ça. Même si tu me dis une parole blessante, des paroles humiliantes, je vais toujours trouver une bonne excuse qu'il a voulu dire telle chose et pas telle chose, parce que j'essaie toujours avoir une bonne pensée, une pensée positive de mon frère en islam. Ça, c'était Imam Shafi'i. Ça, c'était ulama. C'était ça, les savants. C'était pas nous. Nous, on est des rigolos. On essaie de suivre, mais on n'arrive pas. Parce que le fond du fond n'est pas comme le fond de Shafi'i, d'Abu Hanifa, d'Imam Ahmed, d'Imam Malik. Et encore, moins encore des Sahaba et des Ilaray des Zalik. Mais on essaie. Voyez comment étaient les savants, voyez comment étaient les pieux prédécesseurs. Le cœur des musulmans, à l'époque, je pense à Sallam, et ceux, des générations après, ceux qui ont mis en pratique sa sunna, sont des cœurs remplis de pureté, rempli de sincérité. On doit essayer de travailler ça de nos jours. C'est ça qui manque. C'est ça qui fait qu'il y a des divorces. C'est ça qui fait que les enfants ne se parlent plus, les frères et sœurs se disputent l'héritage. C'est ça qui fait que dans une même famille, on ne se voit plus, on ne se rencontre plus. On n'a plus envie de retrouver notre beau-frère ou de retrouver notre oncle, notre neveu à table en face de nous. Parce que, à la base, il n'y a pas de sincérité, le cœur n'est pas pur. On n'a pas de bonne pensée pour notre frère en islam, notre prochain, pour les membres de la famille. Ce qui fait qu'il y a un véritable problème, il y a une cassure de la Ummah. Et tant que la Ummah sera divisée, il n'y aura pas la Nusra, il n'y aura pas l'aide d'Allah Azza wa Jal. Qu'Allah nous donne à tous tawfiq de comprendre ces quelques paroles. Qu'Allah Rabbul Izza renforce la sincérité de nos actions, la sincérité de nos sentiments, que nos cœurs deviennent pur, qu'il n'y ait plus d'hypocrisie, qu'il n'y ait plus de mauvaises pensées, qu'il n'y ait plus de jalousie, qu'il n'y ait plus rien, aucun sentiment négatif dans notre cœur à l'égard de notre prochain. Qu'Allah nous accorde ses qualités et qu'Allah nous donne la possibilité aussi de commencer dès maintenant à faire doua régulièrement pour nos frères en islam. Ma tawfiq illa billah. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير.